Vous m'entendez ? Je me suis engagée auprès de Chantal Georgel pour tenir 5 minutes avec 2 objets. J'ai eu son autorisation. En revanche, j'ai manqué, et j'en suis absolument confuse, ce message demandant l'image en avance. Déjà, pendant que j'installe ce, et pour ne pas perdre de temps, je voulais déjà dire combien j'avais été intéressée par cette étude de la collection de Salomon de Rothschild d'art asiatique, puisque la collection commençait dans les années 60 et terminée dans les années 1860 et terminée dans les années donnée en 1922. Évidemment, je ne trouve pas mon PowerPoint. Merci. Merci de votre aide. Et donc, terminée en 1920, enfin, arrivée dans les collections en 1922, était tout à fait passionnante car elle ne révélait pas du même goût de l'histoire de l'art entre cet intérêt qu'on a pour les arts extrêmes orientaux dans les années 1860 et ceux que l'on pouvait avoir, le goût que l'on pouvait avoir dans les années 1920 quand ces deux objets et quelques autres qui l'accompagnèrent, arrivèrent au Musée des Arts Décoratifs et dans les autres institutions où la collection, vous le savez, est répartie aujourd'hui, le Louvre, le cabinet de curiosité et l'hôtel Berryer, Sèvres, Guimet et, pour quelques pièces, donc le Musée des Arts Décoratifs. 2 pièces que j'ai choisies. J'aurais pu choisir la porcelaine, je ne l'ai pas fait, c'est un des grands ensembles de cette collection Salomon de Rothschild. J'aurais pu choisir les pierres dures, je l'ai fait avec un. J'ai préféré choisir un objet extrêmement atypique. Ça apparaît très vert sur le... en fait, imaginez cette pièce bleu turquoise. Je ne vais pas vous parler d'origine de la pièce, puisque je suis bien incapable de vous dire d'où elle vient, si ce n'est de Chine, vous me direz, c'est déjà pas mal. Très probablement, on peut imaginer des collections impériales, tant pour cette pièce que pour la suivante. C'est pas toujours bien de le dire, car cela pourrait dire qu'elles proviennent du sac du Palais d'été, et personne n'a envie de le dire, et en tout cas personne n'a envie de s'en réclamer. Cette coiffe est exceptionnelle, car si elle est 19e, elle est dans un état de conservation absolument remarquable. On en connaît très peu d'une telle complexité, et j'ai voulu vous mettre en avant la manière dont elle était portée pour que vous compreniez à quel point cet objet est spectaculaire. Elle est réalisée en crin pour sa forme. Par-dessus, donc, vous voyez des éléments de perles, de grenats, de pierres fines diverses et variées, et de papier couché, de papier argenté, et tout ce que vous voyez en bleu turquoise sont des plumes de Martin Pêcheur qui ont été coupées et collées sur ces éléments qui sont pour la plupart posés sur des ressorts d'argent qui donc bougeaient chaque fois que la personne qui portait, la femme de haut rang qui portait l'objet là sur sa tête, esquissait le moindre mouvement, alors ces papillons, ces phénix et ces divers pampilles, bien sûr, mais tous ces éléments se mettaient à vibrer très délicatement ou plus fortement. Et donc, vous imaginez le spectacle que devait constituer le port d'une telle coiffe. Pas de facture, contrairement à certains, à l'objet que je vais vous montrer après, mais pour préparer un colloque où j'étais aujourd'hui au Musée des Arts Décoratifs et que j'organisais, d'où mon retard, une description que j'ai trouvée il y a 2 jours, peut-être la grippe a aidé, dans l'exposition des arts de la femme organisée par l'Union Centrale en 1892 au Palais de l'Industrie, dans la salle 19, les arts de la femme en Chine et au Japon. Dans la salle est consacrée surtout à la Chine et au Japon, il sortira de dire, sans donner ici l'énumération exacte des vitrines qui la garnissent, qu'elle renferme les collections de M. Bing, Gillot, Bruno et Vapro. Pour l'instant, pas de Rothschild. Et à l'issue, on dit bien, la vitrine murale du fond... La vitrine murale du fond renferme la collection de M. Vapro. On y remarque une coiffure de cérémonie de femme chinoise, coiffure qui a été confectionnée au moyen de plumes de Martin Pêcheur. Il est très étonnant, si c'était celle que nous avons sous les yeux, que ce soit celle de la baronne de Rothschild, mais il n'est pas tout à fait à exclure cela malgré tout. Peut-être que la baronne a prêté cette pièce en 1892 sans avoir envie que l'on nomme sa provenance. En tout cas, il est bien évident que c'est dans le goût donc de cette deuxième moitié du XIXe siècle. Je voudrais terminer avec cette pièce. J'ai promis que ce serait 5 minutes, il me reste 2 minutes. Et avec cette pièce qui, là, pour le coup, a un tout petit pédigré. Pas celui que nous avons vu tout à l'heure avec Marie-Laure de Rochebrune ou avec mes collègues du Musée des Arts Décoratifs, mais on peut en tout cas savoir avec certitude que cette pièce-là a bien été achetée par Salomon le 29 janvier 1864, grâce à ces fameuses et précieuses factures conservées à Londres dans les archives Rothschild. Cette pièce a été achetée par Salomon à Lovengar. La somme assez faramineuse de 4800 francs. Et ça fait partie des pièces chinoises les plus, fait partie des prix les plus importants des pièces chinoises. Certains cloisonnés dépassent les 5000 francs. Quelques céramiques également atteignent ces prix. Mais ce pot à pinceau qui doit faire 18 cm de haut, donc juste pour que vous sachiez, à peine plus grand que cette petite bouteille d'eau, est tout à fait remarquable. Elle n'a pas de marque impériale, elle pourrait. Elle appartient à l'évidence au style de Tianlong, donc au XVIIIe siècle, ce très grand empereur. Ce qui est spectaculaire dans cet objet, c'est la taille du morceau de lapis lazuli, qui est tout à fait spectaculaire. Il est la taille du décor est elle aussi tout à fait remarquable, avec ce paysage habituel pour les objets de lettré. Imaginez ce pot à pinceau sur une console, dans un cabinet de lettré, qui, grâce à ce paysage représenté en 3 dimensions, tout autour de ce pot à pinceau, peut vaquer à la rêverie, peut, dans un monde taoïste, fait de montagnes et d'eau, imaginer des rêves d'immortalité, ou en tout cas rêver en le regardant, ou alors imaginer à nouveau un cosmos particulier. Est-ce que Salomon de Rothschild a imaginé a rêvé en regardant ces objets? Peut-être pas. Je ne sais, on ne peut pas le savoir. J'espère pour lui. Mais en tout cas, moi, je vous invite à aller voir cet objet. J'ai eu le plaisir de sortir ces deux pièces en 2014, pour l'exposition de la Chine aux arts décoratifs, grâce, et je la remercie, à Pauline Prévost-Marcilassi qui m'avait sollicité quelques années plus tôt pour faire ce travail. Et donc, grâce à cela, nous avons pu ressortir ces pièces avec plus de connaissances. Et je vous invite à aller les voir, en tout cas cette pièce-là, et une autre, une ceinture de jade blanc, une imitation de l'époque des Ming, faite au XIXe siècle, mais dans une qualité tout à fait exceptionnelle, dans ce jade qu'on appelle gras de mouton, blanc donc, qui sont sortis en ce moment et mis à l'honneur de manière tout à fait remarquable dans l'exposition jade présentée au musée Guimet. Je vous remercie de votre attention.
Merci à tous les intervenants. Je voulais vous dire, ne vous sauvez pas, parce que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur